un podcast France Culture.
Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Dans le Grand Est, comme en Île-de-France, les services hospitaliers sont saturés. Partout, en Hexagone, comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai.
Frissons d'angoisse ou soupirs de soulagement, quelle que soit votre réaction face à cette annonce, rassurez-vous, elle appartient bien au passé et nous sommes bien le vendredi 10 mai 2024, soit 4 ans, presque jour pour jour, après la fin du premier confinement, celui qui avait débuté le 16 mars 2020. La mise à l'arrêt d'une partie de l'économie avait alors entraîné avec elle une nouvelle façon de travailler, dans l'angoisse et la peur pour celles et ceux dont l'activité a été qualifiée d'essentielle, de façon fragmentée au moyen du chômage partiel pour certains et à distance pour d'autres, abonnés au télétravail dont la pratique s'est massifiée.
Le 11 mai prochain, mes chers compatriotes, sera donc le début d'une nouvelle étape. Elle sera progressive, les règles pourront être adaptées en fonction de nos résultats, car l'objectif premier demeure la santé de tous les Français. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le 11 mai, il s'agira aussi de permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, nos commerces et nos services.
On va être en contact avec des dizaines et des dizaines de personnes.
Je pensais vraiment que les personnes qui demandaient le télétravail, c'était un peu des personnes qui voulaient moins travailler, se cacher pour moins bosser. Mais depuis ces 2 mois de télétravail, j'ai vraiment changé de fusil d'épaule. Je vois vraiment les bienfaits du télétravail. On a été beaucoup plus efficace en termes de capacité à développer notre outil informatique.
Le changement, c'est quand je prends mon ordinateur pour me mettre sur la table. Je ne fais que ça, c'est ma seule activité de la journée. Ma vie privée et ma vie professionnelle sont entremêlées. Je n'ai plus cette séparation que j'avais avant.
De nouvelles fractures sont apparues depuis ce premier confinement entre les délocalisables à domicile et les forçats du présentiel, entre salariés aux revenus assurés représentés par des syndicats qui ont repris de la vigueur et individus précaires isolés. Cette modification radicale des inégalités face au travail intervient dans un contexte où celui-ci n'est plus considéré comme très important que par 24% des Français en 2021, alors qu'ils étaient 60% en 1990. La mise à distance du travail au cours de cette crise n'a donc pas été que géographique. Et 4 ans après son avènement, sociologues, anthropologues, économistes se sont penchés sur la question. Nous les recevons donc aujourd'hui à Entendez-vous l'écho dans notre table ronde d'actualité. Claude Didry, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes sociologue du travail, directeur de recherche au CNRS, membre du centre Maurice Albvax à l'ENS. Vous avez dirigé l'ouvrage « Face au Covid, l'enjeu du salariat » aux éditions La Dispute en octobre 2023. Vous observez donc le monde du travail depuis un certain nombre d'années. Quel est le plus grand point de rupture qu'a engendré la crise sanitaire de votre point de vue de chercheur? Quand est-ce que vous vous êtes dit « là, il se passe quelque chose que je dois observer en tant que chercheur »
Je dois vous avouer que c'était difficile de me dire ce que je dois observer. Le choc inaugural du confinement a été énorme et nécessairement ça m'a beaucoup interrogé, quoi. Mais je dois avouer qu'au début, je savais pas comment le prendre.
Claudia Sénic, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris, directrice de l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Et vous avez dirigé l'ouvrage Le travail à distance, défis, enjeux et limites. Ça s'est paru à La Découverte en mai 2023. Pourquoi est-ce que le travail à distance, tel qu'il s'est instauré face au risque sanitaire, a retenu votre attention en particulier?
Je crois que c'est un des grands changements de l'organisation de nos sociétés. Suite à un choc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Les femmes se sont mises à travailler beaucoup plus après la Première Guerre mondiale, notamment quand elles ont dû remplacer les hommes qui étaient au front. Et là, le télétravail a été étendu jusqu'à ses limites possibles. Et puis, on l'a pratiqué pendant de longs mois et on a vu que c'était possible, que pour certains, c'était souhaitable. Et on a fait les investissements nécessaires et ça change complètement les manières de travailler pour ceux qui le pratiquent. Donc, ça change plein de choses. Enfin, la socialisation, l'organisation du travail, l'autonomie, enfin, on va en parler.
Et on l'a dit, votre ouvrage a été publié en mai 2023, donc 3 ans après le début du premier confinement. 3 années, c'est suffisant comme recul en tant que chercheuse? C'est compatible avec le temps de la recherche?
On continue à observer. Il y a un observatoire du télétravail, un groupe de chercheurs qui font des enquêtes tous les 3 mois pour voir comment ça se passe dans 27 pays du monde, donc ça continue. Mais en un sens, on n'a même pas besoin de 3 ans parce que le confinement, ça a été ce qu'on appelle, nous, une expérience naturelle. C'est-à-dire que tout à coup, on a pris les gens un peu comme des souris dans un laboratoire et on les a mis au télétravail sans qu'ils l'aient voulu décider ou anticiper et on a pu voir ce que ça leur faisait. Alors bien sûr, il y avait aussi le contexte du Covid, donc il faut réussir à séparer les deux. Mais en suivant les gens qui étaient au télétravail, puis de retour au bureau et de nouveau en télétravail, etc., on pouvait observer quel impact ça avait sur leur satisfaction dans la vie, leur santé mentale et plein d'autres choses. Donc en un sens, on n'a même pas besoin de 3 ans. En 6 mois, on a déjà pu comprendre plein de choses.
Cyrine Garde, terminons ce tour de table avec vous si vous voulez bien. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse postdoctorante au Centre d'études de l'emploi et du travail du CNAM et autrice de Essentiel et Invisible, point d'interrogation, Classe populaire au travail en temps de pandémie. Ça s'est paru aux éditions du Croquant en 2022. Quelle enquête précisément avez-vous menée sur le travail au temps du Covid?
Je me suis intéressée à l'expérience de crise des salariés de la grande distribution et des salariés de la logistique dans un moment, me semblait-il, où leur expérience de cette crise était méconnue, mal documentée, avec des regards qui se portaient à juste titre, notamment sur le télétravail qui constitue effectivement un énorme changement dans les manières de produire. Mais il me semblait qu'il fallait quand même continuer de regarder ce qui se passait du côté de celles et ceux qui ont continué de sortir tous les jours quand les autres étaient confinés et qui sont bien souvent membres des classes populaires, comme des chiffrages l'ont montré plus tard, une dominante très nette d'emplois ouvriers, d'emplois employés, à faible revenu, peu qualifiés. Et donc, il m'intéressait aussi de voir au prisme de la classe sociale comment cet événement d'ampleur mondiale pouvait résonner dans ces franges de la société.
Alors justement, c'est très intéressant ce que vous dites. Revenons peut-être un peu plus en détail sur la chronologie des événements et sur sa sociologie finalement. Fin mars 2020, 2 semaines après l'annonce du confinement en France, une étude de la DARES estime que la moitié des salariés n'est plus au travail. Donc ça, c'est soit le chômage, les congés, les arrêts maladie ou les congés pour garde d'enfants, c'est assez hétérogène, et que l'autre moitié donc se partage à part égale entre télétravail et travail sur site. Cyrine Garde, est-ce qu'on sait qui étaient justement sociologiquement les individus en télétravail et qui s'est malgré tout rendu sur le front?
En ce qui concerne le travail sur site, on a eu d'abord un certain nombre de remerciements adressés notamment par le président de la République dans son allocution du 13 avril 2020, où il cite pêle-mêle un ensemble de métiers assez divers, les agriculteurs, les manutentionnaires, les livreurs. C'est beaucoup plus tard que la catégorie de travailleurs de la deuxième ligne va acquérir une consistance sociologique, notamment suite à une mission de recherche conduite en partie par Christine Herrel. Et on va découvrir que ces salariés de la deuxième ligne représente d'abord 4,6 millions de salariés, ce n'est pas rien, et que parmi eux, on compte une majorité d'ouvriers, d'employés, à faible revenu, peu qualifiés, qui présentent un déficit global de qualité de l'emploi, de qualité du travail par rapport à la moyenne des salariés du privé. Parmi ces salariés, on va trouver les salariés du commerce, les salariés de la logistique, les manutentionnaires, on va aussi trouver les aides à domicile, les agriculteurs à nouveau, un ensemble de métiers qui ne font pas strictement partie du personnel de santé qui lui constitue la première ligne pour le président Macron, mais qui se sont trouvés à être fortement mobilisés durant la crise sanitaire. Donc ce sont finalement, c'est une part des classes populaires qui s'est retrouvée dans cette deuxième ligne.
Tandis qu'à l'inverse, je crois qu'on a 58% de cadres qui ont télétravaillé, mais on y reviendra bientôt. C'est intéressant les termes que vous évoquez, première ligne, deuxième ligne, travailleurs essentiels. Comment expliquer qu'on ait eu un tel besoin de classification, de classement. Et au final, est-ce que c'est si nouveau que cela, Cyrine Garde, cette hiérarchisation finalement des travailleurs?
Non, ce sont des catégories qui sont essentiellement issues du discours politique et du discours médiatique. Effectivement, le premier confinement a été l'occasion d'ouvrir une réflexion sur les métiers, sur leur hiérarchisation symbolique. On s'est rendu compte, effectivement, si on ne le savait pas déjà, qu'une frange importante des salariés contribue au bon fonctionnement de la société. Néanmoins, il reste assez mal rétribué. Il y a un écart entre la contribution et la rétribution, on peut dire. Et je pense que c'est ça qui fait naître c'est cette inflation catégorielle face à laquelle il faut être un peu vigilant, puisque finalement, ce qu'on retrouve derrière ces catégories, c'est toujours une partie des classes populaires qu'on a parfois un peu de mal à nommer.
Et par ailleurs, ce que vous dites dans votre ouvrage aussi, c'est que cette classification-là, elle apparaît un peu comme imposée aux classifiés. C'est une étiquette dans laquelle ils n'ont pas forcément envie, besoin de se reconnaître.
Les salariés essentiels se sentent-ils vraiment essentiels? Je pense que c'est la question qu'il fallait poser, qu'on a plus ou moins posée. Mais ce qui était intéressant, effectivement, c'est que on a beaucoup parlé de ces salariés, mais on les a assez peu entendus parler. On a plaqué sur eux un certain dévouement, un sens du sacrifice. On leur a donné le costume du héros ou de l'héroïne, mais on a assez peu entendu leurs paroles, leurs propos. Et c'était aussi ce qui m'animait dans cette recherche, d'essayer de retracer, d'explorer leur expérience de crise à partir de leurs témoignages.
Je travaillais dans une petite boîte familiale qui était une agence web à la base. Cette agence avait réussi à passer un contrat énorme avec des Américains, des mastodontes de l'hôtellerie à travers le monde. Bah, petit à petit, avec le Covid, ils se sont dit bon, bah, les Frenchies nous coûtent un peu cher. Et puis bon, la solution, là, on commence à avoir un peu tout en main. Donc ils ont commencé à déléguer, moi je m'occupais de la partie support, donc tout ce qui est entretien post-production, c'est quand il y a des petits bugs ou des petites modifications, ou saisonnièrement, on va dire, ben tiens, pour Pâques, on voit un petit pop-up qui dit moins 30% sur tous les hôtels pour les chambres doubles ou des trucs comme ça. Et en fait, toute la partie support, elle a été déléguée, je crois que c'est dans les Philippines, il me semble. Bah voilà, quoi, on a un peu glissé, quoi, et bon, j'ai eu un patron très humain. Puis il a tout fait pour me garder, il me payait les 20% en plus. Parce que voilà, on était payé par l'État 80% au chômage partiel, ce qui était déjà quand même pas mal. Et lui, il rajoutait les 20%. Puis je crois qu'au mois de juin, il m'a dit, Kim, il faut peut-être que tu réfléchisses à regarder un peu si tu trouves d'autres opportunités. Tu peux y répondre parce que je pense que le mois prochain, là, ça va être, ce sera terminé. Voilà, ça va pas terrible, quoi. Il s'inquiétait, même pour son propre truc pour lui-même, quoi. Il pouvait plus, quoi, et il sentait que c'était vraiment la fin, donc.
C'était le témoignage de Kim, développeuse web de 32 ans, un témoignage diffusé dans un épisode des Pieds sur Terre sur France Culture en novembre 2020. Dans un rapport publié le 25 janvier 2021, l'Organisation internationale du travail tirait le bilan de l'année 2020 et estimait que 8,8% des heures de travail avaient été perdues par rapport au quatrième trimestre 2019 dans le monde, ce qui représente 255 millions d'emplois à temps plein. Lors du confinement de mars 2020, quel type de salariés sont confrontés à la perte de leur emploi, Claude Didry?
Les premiers concernés sont ceux qui sont en contrat à durée limitée, je dirais, et où donc le contrat ne donne pas lieu à renouvellement, ou la mission d'intérim ne donne pas lieu à renouvellement. Et puis, il y a aussi cette mesure fondamentale qui a été adoptée à l'époque, qui est la mesure du chômage partiel, et donc qui a été revalorisée à beaucoup d'égards dans sa durée et puis dans sa rémunération. On est passé, je crois, à 70-80% de la rémunération, ce que dit d'ailleurs l'interlocutrice interviewée. Donc, ça a créé une forte expérience de chômage partiel très, très général, puisque je crois que on a eu à un moment donné, pendant le confinement, une tripartition de la population salariée entre télétravailleurs, présentiels et puis chômage partiel, quoi. Donc ça a été une chose importante. Alors je voudrais peut-être ajouter par rapport à ce que disait Cyrine, c'est sur les essentiels, c'est que cette dimension du chômage partiel, elle a fait apparaître aussi ce que vous notez, c'est-à-dire le caractère flou de la dimension essentielle ou indispensable à la nation. Et on s'est aperçu qu'on ne savait pas exactement jusqu'où allait ce caractère indispensable et jusqu'où allait le chômage partiel. Alors Dans le cas, par exemple, de cette personne qui est liée au secteur de l'hôtellerie et de la restauration, naturellement, la fermeture administrative a été une condition essentielle d'accès au chômage partiel. Mais c'est posé le problème pour d'autres travailleuses et travailleurs, notamment dans les secteurs industriels. Alors, on peut évoquer, par exemple, ce qui s'est passé chez Renault, ce que nous avons étudié dans quelques monographies, ou encore ce qui s'est passé dans le domaine des travaux publics, avec des tentations de la part à la fois des hiérarchies dans l'automobile ou bien même du pouvoir politique dans le domaine des travaux publics de maintenir les gens en présentiel pour limiter l'addition en termes de chômage partiel. C'était le cas notamment dans le bâtiment avec une polémique fameuse entre Madame Pénicaud et la CAPEB, là, la Chambre des petits artisans. Madame Pénicaud traitant la CAPEB de défaitiste au regard de la fermeture des chantiers, de la mise en sécurité des chantiers qui étaient alors décrétés par les petits patrons et par les chefs d'agence dans les travaux publics.
Vous parliez du profil finalement de ces individus peut-être plus exposés aussi à cette crise et à ses conséquences. Vous parliez des CDD potentiellement salariés, des jeunes, etc. Il y a une autre dynamique que vous pointez dans votre ouvrage que j'ai trouvé assez intéressante, qui est plus insidieuse, peut-être moins connue, celle de la baisse des revenus et à plus forte raison, nous dites-vous dans votre ouvrage, des non-salariés. Les micro-entrepreneurs ont ainsi perdu 7,2% de revenus par rapport à 2019. Et vous parlez en cela d'une déstabilisation des instables. Finalement, c'est cela que cette crise met en lumière. C'est le fait que, de façon assez logique, les plus précaires se sont pris de plein fouet les conséquences de la crise.
C'est un des aspects des choses. Je dirais que les plus précaires se sont pris de plein fouet les conséquences de la crise. Alors c'est documenté par notamment une note de l'INSEE sur les revenus des indépendants, sur ce sujet, en montrant ce qu'il en est, notamment pour les indépendants micro-entrepreneurs. Mais l'autre aspect, l'autre massif qui se dégage, c'est le massif de l'emploi stable et en CDI et fonction publique, qui sont les conditions de possibilité d'un certain présentiel, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cyrine, et puis du télétravail et du chômage partiel. Donc là, c'est aussi le massif que l'on redécouvre dans le cours de cette crise, et notamment pendant le premier confinement.
Quand vous dites massif, je crois qu'on parle de 75% des actifs qui sont en CDI ou en CDI ou en emploi stable. Je crois que c'est à peu près.
C'est à peu près la. Oui, on peut le dire. 75% de l'emploi, 70% de la population active, enfin, à compter. À ne pas compter les chômeurs comme salariés, sinon ça fait quelque chose d'assez fort, quoi. Ouais.
Et pourtant, et vous le dites vous-même encore une fois, la crise sociale et économique est évitée, cela en grande partie, et on l'a compris grâce à vous, en raison de l'usage du chômage partiel qui a été déclenché en avril 2020 par l'État pour aider les entreprises à affronter cette baisse d'activité et qui permet aux salariés de percevoir 84% de leur salaire net. Ce dispositif, Claude Didry, il existait avant l'apparition de la pandémie, et à quoi il servait-il à l'époque?
C'est un dispositif qui existe depuis les années 50. On parlait de chômage technique dans les situations de non-approvisionnement ponctuel des entreprises. Et puis après, il a été redéployé. Alors, il a servi pendant la crise financière pour amortir le choc sur la base de l'exemple allemand. Et puis ensuite, il a été aménagé sous la forme de ce qu'on a appelé l'activité partielle, sous l'impulsion de la présidence Hollande, avec une nouvelle législation. La date précise m'échappe, je crois que c'est 2015 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, bref, on a un cadre là qui est prêt pour quelque chose.
Mais ce qui est intéressant, et ce qu'on comprend dans ce que vous nous dites, c'est que finalement, le cadre était plus ou moins prévu, mais en tout cas, tout ce qui permet d'amortir la chute est réservé, encore une fois, à de l'emploi stable. Et ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que finalement, la crise sanitaire intervient dans un contexte aussi du salariat dégradé, qui avait aussi un contexte de, il y avait déjà un salariat à deux vitesses et que finalement tous les plus précaires se sont retrouvés davantage exposés et que la crise a servi à mettre en lumière aussi cette dégradation depuis la fin des années 2010 finalement et le statut d'auto-entrepreneur, de micro-entrepreneur, etc. Et que ça, on se l'est pris finalement en pleine figure à l'aune de la crise.
Oui. Et enfin, bon, moi, l'étonnement que j'ai à l'égard de cette crise, c'est que les choses ont tenu. Et elles ont tenu alors que précisément depuis les années 2010 pour le moins, avec notamment le traité de stabilité budgétaire européen, depuis même la loi de 96 sur l'objectif de dépenses de sécurité sociale, la pression est mise sur les dépenses publiques, les dépenses de santé, et les ordonnances Macron démantèlent les institutions représentatives du personnel, avec notamment la suppression du CHSCT. Donc, les conditions sont là pour que la crise soit extrêmement grave. Et pourtant, les services publics vont tenir et la santé va pouvoir être préservée par la suite. Et on va voir comment.
France Culture, entendez-vous l'écho? Alia Tovine.
L'autre grand tournant du confinement, c'est le recours, on le disait, au télétravail qui passe de 5% des Français concernés à près de 40% en mars 2020. 5%, c'est peu, mais c'est existant tout de même. Claudia Sénic, au moment où le gouvernement annonce le premier confinement, les entreprises françaises ont-elles, ou peut-on le qualifier ainsi, une forme d'expérience du télétravail? Sont-elles prêtes finalement?
Non, je crois qu'elles sont absolument pas prêtes. Comme ça a été dit par l'intervenante tout à l'heure, le télétravail, il y avait une plaisanterie, on disait c'est plus télé que travail. Donc il y avait une sorte de suspicion, une réticence, on a l'habitude de voir les gens, d'avoir une sorte de contrôle un peu visuel. Donc tous les investissements en bureautique, en informatique, tout ce qui permet de travailler à distance, c'était pas là.
Claude Didry, cette notion, je crois, de télétravail apparaît pour la première fois en 1978 dans un rapport portant sur l'informatisation de la société, ça remonte. Comment cette nouvelle forme de travail à distance est-elle perçue dans les années 80? Je crois qu'elle est étudiée dans un rapport, le rapport Auroux de 1981. Comment on appréhende finalement ce télétravail avant la crise?
Ben, on l'appréhende de manière un peu magique avec le recours aux nouvelles technologies. Hein. Ce terme de télétravail, il apparaît dans les années 70 sous l'impulsion des Bell Labs aux États-Unis, où on imagine que les gens vont pouvoir rester chez eux. Mais il va donner lieu ensuite à une législation dans les années 2000, sous l'impulsion des partenaires sociaux européens avec l'accord de 2002. Le but, là, est de définir très clairement le télétravail en ayant la garantie d'un consentement du salarié et un télétravail qui ne peut porter que sur quelques jours de la semaine. C'est finalement une loi de 2012 prise avec la menace de la grippe aviaire, je crois, à l'époque. Enfin, qu'intervient ce qu'on appelle un télétravail de crise et dont l'obligation d'ailleurs est assez complexe parce qu'on ne sait pas, elle pèse, c'est le gouvernement qui va déclarer ce télétravail de crise, mais l'obligation semble peser sur les salariés avec obligation, mais on ne sait pas jusqu'à quel point pour les employeurs de s'y conformer. Enfin bref, on est un peu dans le flou et on arrive sur une expérience grandeur nature, mais qui est d'une nature différente, disons d'un point de vue institutionnel, du télétravail expérimenté antérieurement.
Claudia Sénic, il faut faire la différence effectivement entre ce télétravail de crise imposé et le télétravail tel qu'on l'avait pensé dans les années 80, 90 puis 2000.
Voilà, c'est vrai qu'avant la pandémie, le télétravail, c'était plutôt une sorte d'expérimentation avant-gardiste qui s'appuyait sur ce qu'on appelait la numérisation du travail ou la digitalisation du travail, c'est-à-dire grâce aux nouvelles technologies, on peut travailler n'importe où. Et beaucoup d'entreprises, des grandes entreprises, avaient l'idée de laisser leurs travailleurs exercer leur fonction en dehors des locaux de l'entreprise et éventuellement même dans des coworking ou dans des endroits où ils pourraient travailler avec d'autres gens qui sont dans le même secteur et faire circuler les idées. Donc cette idée de la séparation entre le lieu de travail de l'entreprise et puis l'exercice était déjà là, mais c'était quelque chose qui était pour les cadres de certains secteurs de la tech, quoi, plutôt.
Et allez-y, Claude Didry.
On peut ajouter une expérience qui est l'expérience du télétravail chez Renault dans les années 2005-2010 et qui apparaît assez provocatrice dans une entreprise industrielle comme Renault et qui finalement fait long feu parce que l'entreprise elle-même, et je crois que c'est un élément sur lequel le télétravail a buté, l'entreprise elle-même ne va pas vouloir autoriser les ingénieurs du technocentre à procéder en télétravail. Par une peur fondamentale qui est la peur de perte des données en ligne. et donc de secrets industriels qui sont menacés. C'est aussi l'explication d'une réticence, par exemple dans le monde bancaire, qui ensuite
vous avez dit également
voilà, c'est relâché sur ce sujet, de voir circuler des données confidentielles en matière de clients, en matière de trade, de front office, etc. Circuler sur le web en sachant que le web n'est pas forcément extrêmement sûr.
Oui, il y a une forme de barrière technologique qu'on comprend assez bien. Mais ce qui est intéressant, Claudia Sénic, et je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu dans l'histoire de façon plus générale, c'est que avant le confinement, le mouvement général, et que vient d'ailleurs un peu acter le droit, il est plutôt à la séparation du domicile et du travail. On a tendance à vouloir clairement opérer une distinction et à ce que le droit a une forme de déconnexion et de respect de la vie privée soit inscrit dans le marbre. On parlait même d'une sanctuarisation du domicile. Pourquoi était-ce si important, finalement, pour les travailleurs d'absolument marquer le temps du domicile et le temps du travail?
C'est une question qui est encore très actuelle, en fait. On sait que le travail est sorti du domicile au moment de la révolution industrielle, au moment où les manufactures, les usines remplacent les ateliers qui étaient... Et donc la famille et le travail se séparent, etc. Mais c'est surtout avec cette numérisation que cette crainte de la porosité entre les deux domaines et le fait qu'il y ait une sorte de techno-stress, comme on dit maintenant, où on est sans arrêt, sous contrôle ou bien sollicité, et donc si on est dans sa vie privée, on est interrompu par le travail et inversement. Finalement, cette flexibilité, elle se paye par éventuellement davantage de friction.
Claudia Sénic, on en arrive à un point crucial finalement aussi de cette crise et de cette émission, et puisqu'il a fait l'objet d'une attention particulière de la part de chercheuses et de chercheurs, et à plus forte raison celui des sociologues, finalement, est-ce qu'on sait très concrètement si les salariés sont demandeurs finalement du télétravail? Et peut-être qu'une comparaison avant et après le Covid est ici importante. Je sais que vous avez mené des études, notamment sur la base d'enquêtes menées aux États-Unis entre autres. Est-ce que finalement il y avait cette appétence, cette volonté d'être en télétravail? C'était considéré comme un privilège de la part des salariés?
Il y a plein d'expériences qui ont essayé de répondre à votre question, savoir ce que veulent les salariés. Donc des expériences de choix. C'est-à-dire qu'on met les gens en situation de choisir entre deux emplois. Alors, ça peut être hypothétique, ou alors même des emplois réels. Donc, sur des plateformes qui offrent des emplois, les chercheurs se mettent en cheville avec la plateforme et on a des variations. Donc, un emploi avec la possibilité de télétravailler 2-3 jours par semaine et puis le même emploi à côté sans cette possibilité. Et on fait varier les salaires et on peut estimer une sorte de propension à payer ou de disposition à payer. Ça veut dire à combien de salaire, le pourcentage de salaire les gens sont en moyenne prêts à renoncer pour pouvoir télétravailler ou pouvoir le faire 2-3 jours par semaine. Et donc, ça a été fait sur des plateformes en Chine, aux États-Unis, un peu partout. Et à chaque fois, c'est environ 7-8%. C'est une moyenne. C'est peut-être ça qu'il faut remarquer, c'est que c'est une moyenne. Donc, les gens veulent télétravailler. Dans cette enquête dont je parle, une grosse enquête sur le télétravail dans le monde, on voit que parmi les gens qui ont un travail à temps plein et qui peuvent télétravailler, hein, c'est pas tout le monde, ceux qui l'ont pratiqué, ils disent que 40% d'entre eux disent que s'ils ne peuvent plus télétravailler, ils vont changer de job.
Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui.
Ce qu'on retrouve encore aujourd'hui, donc 40% aux États-Unis, plutôt 25% globalement. Mais en fait, il faut quand même dire qu'il y a de l'hétérogénéité et que ça, c'est la moyenne. C'est vrai que la plupart des gens veulent télétravailler, mais pas forcément tout le temps. Alors, il y a 10%, enfin, ça dépend, 10-15% des gens qui voudraient bien télétravailler tout le temps, c'est-à-dire jamais aller sur le lieu de travail, mais ça concerne une certaine frange de la population, plutôt des gens très éduqués, bien payés, plutôt dans la tech et des jeunes. Des millennials.
Je crois que Pôle emploi a publié une enquête qui faisait état du fait que les personnes en télétravail à 60% ou plus sont exclusivement des cadres. Donc effectivement,
voilà,
ça règle la question.
Cadres, et dans certaines professions, surtout informatique, finance, etc. Après, il y a l'essentiel, enfin la grosse majorité des gens qui veulent avoir la possibilité de télétravailler 1 ou 2 ou 3 jours par semaine. Et après, il y a quand même toujours 10% de gens qui veulent absolument pas télétravailler. Pour qui, en fait, ils ont besoin de discuter pour réfléchir, disons. Ils ont besoin d'être sur le lieu de travail pour plein de raisons. Pour peut-être justement se couper de domicile, etc. Donc voilà, il y a des moyennes, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas une taille va à tout le monde, comme on dit.
Le lundi matin, on devait aller chercher du matériel au bureau. Pour moi, c'était un ordinateur et quelques dossiers. J'avais jamais télétravaillé. Ou si, le week-end. Régler des trucs à distance, envoyer des mails. Mais le télétravail, c'est pas ça. Je ne savais pas ce que c'était. Et dans ma boîte non plus, personne ne savait. Aucune culture de ça. C'est pas un truc qu'ils voulaient. Et là, avec le confinement, tout le monde passe du jour au lendemain au télétravail. Le kiff d'être chez soi, ça a duré une matinée, pas plus. Le canapé, la théière sur le bureau, la pause déj qui va bien, tout ça c'est du fantasme. Moi je gagne bien ma vie mais j'ai un deux pièces. Alors la table du salon s'est transformée en bureau pendant tout le confinement. Et plus ça allait, plus l'appart était crade. Je m'occupais plus de grand chose. J'avais l'impression que ma vie était dans l'écran de l'ordi. En fait j'en ai deux des ordis, les deux allumés en permanence, et mon téléphone. Mon téléphone je dors avec. Trois écrans, c'est ça mon confinement. Ensuite on a installé Upstaff. Les boîtes ont mis ça en place un peu partout. En gros, c'est un logiciel qui enregistre l'activité de ton clavier et de ta souris et qui permet à ton manager de savoir si tu bosses et sur quoi tu bosses. Quand on a reçu l'invitation à télécharger l'appli, l'idée c'était de mieux travailler ensemble pour une meilleure coordination, plus efficace, plus fluide. C'est là que quelque chose s'est passé en moi, ça a brisé un truc. Je bossais comme une dingue. J'étais tout le temps dispo pour le taf et on voulait me contrôler.
4 ans après la fin du premier confinement, le rêve d'un salariat sans entreprise s'est-il généralisé? C'est notre sujet du jour à Entendez-vous l'écho sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de Cyrine Garde, Claudia Sénic et Claude Didry. Alors ce qu'on entend dans cet extrait d'un épisode de la série documentaire diffusée sur France Culture en décembre 2020, c'est que le télétravail s'est accompagné de la mise en place de certains dispositifs de surveillance et d'une forme de souffrance qui va avec. La sociologue Marianne Dujarrier a beaucoup parlé de management désincarné pour qualifier le travail des cadres de grandes organisations chargé de concevoir et de suivre le travail réalisé par d'autres, ce qu'elle appelle les planeurs et qui constituerait 40% des cadres. Est-ce que le télétravail va avoir une incidence sur l'émergence de nouveaux métiers davantage chargés du suivi des activités, selon vous, Claudia Sénic?
Je pense que le télétravail, ça peut marcher qu'avec la confiance et l'autonomie. C'est-à-dire que soit on fait confiance aux gens pour faire remplir leurs objectifs, faire ce qu'ils ont à faire, et on appelle ça le contrôle par objectif, quoi. Soit on veut vraiment suivre heure par heure leur activité, et dans ce cas, on perd tout l'avantage du télétravail qui est l'autonomie, la flexibilité, le fait de pouvoir placer dans la journée les différents épisodes de la vie, etc. Donc ce contrôle à distance, ce contrôle éventuellement algorithmique même, c'est vraiment le mauvais côté du télétravail. Et
d'autant qu'on pourrait...
Je pense que ça, oui.
On pourrait aussi supputer que finalement, avec cette mise à distance topographique, mais aussi sociale finalement, et aussi dans l'affect, provoque de la part des salariés qui reçoivent ces ordres-là une moindre capacité de contestation. Est-ce que ça, on peut d'ores et déjà l'observer?
En tout cas, c'est sûr que c'est démotivant et c'est ce qu'on pourrait appeler des motivations extrinsèques. C'est ça a sûrement des effets contre-productifs, je dirais. C'est-à-dire que si on se sent contrôlé, on reçoit le signal selon lequel finalement on ne fait pas confiance et on a besoin d'avoir un micro-management tatillon. Donc, dans la mesure du possible, je pense que tout le monde veut échapper à ça.
Je pose la question notamment parce que je crois que Sophie Binet, qui s'était exprimée sur France Culture en 2020, à l'époque où elle n'était pas encore secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet voyait d'un plutôt mauvais œil finalement ce télétravail en disant voilà, nous on ne peut pas forcément envoyer des mails à tous les salariés pour des raisons de confidentialité, ça distend le lien social, c'est démobilisateur, c'est pas forcément, on ne recommande pas, on n'est pas pour le télétravail à 100%. Claude Didry, est-ce que ce sont toujours des arguments fondés? Est-ce que effectivement, on observe.
Alors, dans les enquêtes que nous avons faites, il est certain que les syndicalistes, mais comme les DRH, sont quand même réticents à l'égard du télétravail. Et dans les secteurs que nous avons vus, notamment dans les télécoms et la banque, il y a une vraie appétence des salariés pour le télétravail. Mais c'est ce qui introduit un problème, c'est le télétravail à domicile. C'est-à-dire que le domicile, ce n'est pas n'importe quel lieu, et ça n'est pas le lieu du travail. C'est-à-dire que c'est un lieu qui échappe aussi, on parle de contrôle, mais qui échappe aussi à l'emprise de l'employeur, tout autant qu'aux syndicalistes, et qui pose aussi des questions en termes de conditions de travail. Le contrôle, c'est pour le pire, donc comme le souligne Marianne Dujarrier, mais c'est aussi le contrôle ergonomique, les chaises que l'on peut avoir à la maison, etc. Donc,
Ça passe sous les radars.
Ça passe sous les radars et on travaille dans de mauvaises conditions aussi. Voilà, pardon.
Et non, je vous en prie. Justement, sur l'absence de frontières entre vie personnelle et vie professionnelle, je crois, Claudia Sénic, qu'on sait, et ça pour de source
sûre,
que c'est une des sources de souffrance, et particulièrement pour les femmes, qui est une question de genre aussi dans cette...
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est universellement observé. voyez, c'est que au moment où les gens se sont retrouvés sans s'être préparés en fait à travailler chez eux, et en plus avec pendant le Covid les enfants à la maison, ça a été vraiment le pire, et surtout pour les femmes puisque traditionnellement ce sont majoritairement les femmes qui prennent en charge les soins aux enfants et tâches domestiques, même si on en parlera peut-être. L'expansion du télétravail et le fait que le dernier numéro de The Economist parle de l'émergence du remote husband, donc du fait qu'il y a beaucoup d'hommes qui désormais travaillent à distance, parce que dans ces secteurs dont on a parlé, le secteur de la tech, la finance, la banque, etc., il y a plus d'hommes. Et ce sont des métiers qui sont tout à fait compatibles, même propices au télétravail. Et ce sont des gens, les milléniaux, enfin des gens d'entre 30 et 40 ans, bien payés, etc., qui ont envie de faire ça. Et donc, ils observent de plus en plus de couples, c'est pas la majorité, hein, où c'est l'homme travaille à la maison et la femme, en revanche, dans des secteurs plus de services, etc., où elle part. Et donc, cette séparation dont on parle depuis le début entre le domicile et le travail, c'est vraiment la ligne qui sépare traditionnellement les activités des femmes et des hommes. Les femmes à la maison, les hommes à l'extérieur, voilà, c'est le truc traditionnel. Et là, si cette ligne, elle ne sépare plus finalement l'activité quotidienne, la pratique quotidienne des hommes et des femmes, et les hommes sont à l'intérieur, les femmes à l'extérieur, ça peut changer les choses, puisque finalement, les pratiques changent avec l'expérience. Voilà, donc ça, c'est une question de recherche, en fait. Pour l'instant, on ne sait pas, mais à force d'être à la maison, peut-être que les hommes vont prendre en charge et se saisir et s'intéresser aux problèmes, enfin, au sujet domestique.
Une affaire à suivre
une affaire à suivre, donc. Ouais. C'est une question de recherche, en tout cas, intéressante.
Une question qui peut se poser sur la question du travail lui-même, c'est-à-dire sur ce qui se passe sur le lieu du travail, avec, dans les secteurs que nous avons observés, le développement du flex-office. Et donc le télétravail va devenir un élément sur lequel l'employeur va jouer pour limiter son empreinte immobilière et avoir un nombre de postes inférieur au nombre de salariés.
Avec tout l'inconfort que l'on sait que procure ce fameux flex office. Absolument. Et cette déstabilisation aussi oui. Du travail sur site. Il y a une chose dont j'aimerais discuter avec vous et que je trouve intéressante, c'est qu'il y a une étude de la Confédération française de l'encadrement et des cadres qui a été publiée le 24 avril de cette année, et qui statuait que près d'un quart des répondants à cette enquête considèrent que le télétravail crée des tensions dans l'entreprise pour des motifs comme l'inégalité entre les salariés qui peuvent bénéficier du dispositif et ceux qui ne peuvent pas. Est-ce que c'est finalement pas ça, la nouvelle ligne de fracture au sein des entreprises, les privilégiés qui peuvent être à distance, ceux qui doivent continuer à être sur site, et on en parlera avec vous, Céline Garde, mais finalement, est-ce que c'est pas ça la nouvelle lutte des classes, Claudia Sénic?
Bon, en tout cas, c'est clair que ça fait une différence. Le fait de pouvoir jouir de cette liberté, cette flexibilité, ça fait gagner énormément de temps. Hein. Ça fait gagner quand même, aux États-Unis, c'est 1h30 par jour, hein, pour ceux qui ne vont pas télétravailler. Ça dépend évidemment des distances. Ça fait gagner aussi économiser des coûts de transport, de préparation, etc. Et ceux qui ne peuvent pas le faire, ils bénéficient pas de cette nouveauté. Alors, on discute parfois d'introduire la semaine de 4 jours pour compenser ceux qui ne peuvent pas télétravailler. J'ai entendu cette proposition, donc c'est pas évident, parce qu'on sait que quand on va les 35 heures, se sont parfois accompagnés d'un rétrécissement des pauses et plus d'accidents de travail, etc. Et pour les gens qui travaillent vraiment sur site, c'est-à-dire physiquement, faire plus d'heures sur 4 jours, c'est pas forcément non plus idéal. Donc les solutions à cette fracture ne sont pas encore identifiées, je pense.
Claude Didry, vous connaissez, sociologue, vous connaissez bien le monde du travail, sa conflictualité et ses négociations. Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous avez pu observer parmi les 7 enquêtes qui constituent votre ouvrage, cette ligne de tension-là, finalement, ce rapport finalement hiérarchique, presque de classe, entre la distance et le présentiel?
Dans certains secteurs, oui. Notamment dans le secteur de la banque. Entre les travailleurs d'agence et les travailleurs de services centraux, il y a effectivement là une certaine conflictualité et la volonté de pouvoir accéder à ce même droit au télétravail que les autres, quoi. C'est certain.
Nous allons voir qu'une autre forme de hiérarchie, peut-être la plus évidente d'entre toutes, elle aussi marquée par le fossé entre travail sur site et travail à distance, on le disait, s'est imposée avec la crise sanitaire. Comment les travailleurs dits essentiels ont-ils vécu la crise et comment leurs conditions de travail ont-elles évolué après cette dernière? Nous en parlerons juste après la pause musicale.
Thank you.
C'était le groupe Kroenling dont le titre So We Won't Forget est sorti une semaine après le 11 mai, date de la fin du premier confinement que nous commémorons à notre manière aujourd'hui dans Entendez-vous l'écho, dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Jeanne Cherquefos et mise en onde par Ludovic Auger.
Quand on a entendu qu'il y a une épidémie, qu'il y aura le confinement, c'était un peu alarmant, c'était un peu inquiétant. Là, on se pose la question, on dit, est-ce que j'ose prendre les transports et je prends le risque pour aller travailler? On n'avait pas le choix parce qu'on est dans un secteur qu'il faut le faire tourner quotidiennement. La première semaine de confinement, ça a traîné. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants, on n'avait pas de produits. La deuxième semaine de confinement, c'est là où ça a commencé à prendre des décisions. Ils ont installé au niveau des caisses, des vitres, ils nous ont ramené le produit, les gants. Moi, personnellement, j'ai continué comme tout le monde. J'ai continué à travailler, à prendre les transports comme d'habitude. J'ai dit, il ne faut pas que je pense, il faut que j'y aille au boulot, normalement. Toutes les personnes qui sont sur le front, ils vont avoir une prime de risque de 1 000 euros. C'était annoncé par le Premier ministre, Édouard Philippe, fin mars, début avril. Et c'est cette prime qui a motivé 90% des salariés de continuer à travailler. Il y en a même qu'ils étaient malades, ils ont continué à travailler. C'est des smicards, ils gagnent le smic. Quand ils voient qu'il y a une prime de 1 000 euros, ils espèrent l'avoir. C'était la carotte pour tout le monde. Je vais vous dire, avec tous les événements, toute cette injustice, j'ai plus envie de continuer à travailler comme avant. J'espère qu'il y aura une indemnisation, une reconnaissance. La maladie du Covid-19, ça sera reconnu comme une maladie professionnelle. Voyez, pour continuer à vivre. Comme les gens qui ont travaillé dans l'amiante, il fallait un combat de 20 ans pour qu'ils soient reconnus. Est-ce que ça sera pareil pour nous?
On entendait à l'instant le témoignage de Zouir qui travaillait au rayon fruits et légumes d'un monoprix de la région parisienne. Un témoignage qui a été diffusé fin août 2020 dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Zouir a été contaminé par le Covid-19 en avril 2020. Alors il y a beaucoup d'éléments dans ce témoignage, Cyrine Garde. Mais ce qui est frappant, c'est la notion peut-être de devoir, celui de faire son travail, peu importe les conditions et les conséquences. C'est quelque chose de commun aux travailleurs et travailleuses de deuxième ligne que vous avez pu rencontrer au cours de votre travail?
Je pense qu'il y a plusieurs formes de rapport au travail qu'on peut observer. Je dirais que globalement, quand je posais la question aux salariés de « est-ce que vous auriez préféré être confiné ?», la réponse était quand même assez souvent non, pour des raisons d'enfermement domestique qui ne paraissaient pas très plaisants à beaucoup de personnes à cette époque-là. Mais il y a aussi quelque chose de l'ordre de la contrainte économique, des salariés qui me disent « oui, bien sûr que j'ai eu peur, mais je ne crache pas sur mon salaire non plus ». Et donc j'ai besoin aussi, pour des raisons purement financières, d'aller dehors, au-devant de cette maladie. Chacun, chacune avait conscience des risques qu'il prenait. Je trouve ça frappant dans cet extrait, ce questionnement sur est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'aller travailler? Est-ce que ça vaut le coup de prendre des risques? Je pense que s'il y a eu une réflexion d'ouverture sur le travail au niveau de ces salariés travaillant sur site, c'est vraiment sur ce questionnement de est-ce que ça vaut le coup de faire prendre des risques à ses proches? Parce que ça a beaucoup habité les entretiens que j'ai réalisés, la peur pour soi, mais surtout la peur de contaminer ses proches.
Et se sont organisés aussi en fonction de cela. Et ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est qu'il y a eu une organisation un peu sur le tas, face aux événements, que rien n'était vraiment prévu. Est-ce que vous savez si, typiquement, les syndicats, les instances de représentation du personnel qu'évoquait Claude Didry en première partie d'émission, est-ce qu'elles ont été présentes à ce moment-là?
Oui, absolument. Je pense qu'elles ont même été essentielles. J'en parle un peu dans mon livre, même si ce n'est pas le sujet principal. Mais je pense que, d'une part, les organisations syndicales ont joué un rôle d'informateur. Informer les salariés sur leurs droits. Je pense notamment à la CGT qui, à l'époque, avait mis en place un numéro vert à l'usage de tous les salariés, y compris ceux qui ne sont pas syndiqués. Et ils disent avoir reçu un nombre énorme d'appels de salariés qui se demandaient « est-ce que mon employeur a le droit de m'imposer ceci, cela, que faire ?» Donc on voit qu'il y a eu ce rôle-là, et puis il y a eu un rôle plus localisé au sein des établissements, de faire pression sur des enjeux de santé et sécurité au travail, en particulier pour ces deuxièmes lignes qui, au départ, n'avaient pas de protection, pas de masque, je le rappelle, donc pendant d'assez nombreuses semaines. Et donc il y avait un enjeu de santé et sécurité au travail, et puis ensuite il y a eu l'enjeu de la prime Covid, les enjeux de rémunération, et qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Et donc un rôle, me semble-t-il, j'irai renouveler peut-être aussi pour les organisations syndicales par cette crise sanitaire, avec des délégués du personnel qui me disent mais on passait notre journée au téléphone en fait à répondre à des questions de salariés, donc un redoublement de travail syndical pour ces salariés.
Claude Didry, ce que vient d'évoquer Cyrine Garde est extrêmement important, surtout dans un contexte où on sait que selon la DARES en avril 2020, seuls 29% des salariés travaillent dans des entreprises qui ont mis à disposition des masques, 37% pour les gants. On sait clairement que les mesures de distanciation étaient à peu près le maximum de ce qu'on pouvait faire. Vous avez pointé un peu plus tôt dans l'émission la suppression du CHSCT, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Son maintien aurait-il changé les choses en termes de préparation à la crise et de précaution vis-à-vis des salariés?
Ah oui, il aurait permis de développer une activité de connaissance, de suivi en termes de contamination, en termes de maladie. C'est quand même la fonction fondamentale de ce CHSCT, avec un collectif de représentants du personnel qui devient expert dans ce domaine et qui est en mesure d'apporter des réponses importantes. Alors, c'est ce que nous avons vu dans certains secteurs. À l'hôpital, par exemple, le maintien du CHSCT a été un élément très important pour accompagner le redéploiement des personnels pour voir. Alors, il y avait aussi le problème des infrastructures, de la prise en charge des enfants, des cantines, des courses, etc. Le CHSCT a joué un rôle là particulièrement important. Dans le cinéma, de la même manière, le CHSCT de branche a été un lieu important pour la mise au point de protocoles sanitaires. Alors, une fois que les équipements sont revenus, pour reprendre une activité assez intense, hein, dans ce domaine-là. Donc, les syndicats ont pourvu, disons, à cette lacune que la suppression du CHSCT a créée, quoi. Hein.
Cyrine Garde, l'autre chose qu'on entendait dans ce témoignage, c'est l'importance de la prime Macron, celle qui a servi de carotte, comme le disait Zouir, qu'on entendait dans cet extrait sonore. Ce système de primes, il s'est démultiplié au cours de la crise et même un peu après. On a l'impression que les primes se sont un peu empilées, sans pour autant que ça s'inscrive jamais dans un espèce de droit durable du travail. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les travailleurs sur site revendiquent ?
Oui, alors moi j'appelle ça des primes de crise. En fait, c'est un dispositif pré-pandémique. Hein. Ça commence avec la crise des Gilets jaunes, qui porte une revendication très forte de pouvoir d'achat en termes de répartition des richesses. Et donc, le président Macron répond par une prime et semble garder cette réaction au fur et à mesure que se présentent de nouvelles crises. La crise sanitaire mettant en lumière les insuffisances de rétribution matérielle à l'endroit de certains salariés provoque aussi la mise en place d'une nouvelle prime. Cette fois, on l'appellera la prime Covid. Et puis, ça se finit avec la prime de partage de la valeur ajoutée qui prend la suite, en fait, avec la crise de l'inflation et de l'augmentation des prix. Maintenant, le problème de ces primes, c'est qu'elles sont partielles. Elles sont laissées à l'appréciation de l'employeur qui décide du montant, qui peut aussi faire des différenciations au sein du personnel. Ça a beaucoup été le cas pendant le Covid et je pense que ça a fait beaucoup de mal aux salariés parce que, par exemple, dans la grande distribution, il y a eu des proratisations au temps de travail. Qui dit temps partiel dit prime partielle. Or, la grande distribution est fortement utilisatrice de temps partiel. Et donc, c'était une drôle de manière de reconnaître cet effort.
Alors justement, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'une caissière de supermarché qui parlait au micro de France Inter le 16 mars 2021.
Nous, on veut des vraies augmentations, qu'on soit quand même reconnu. On fait vivre les gens. Non seulement on fait vivre les gens, on se retrouve à être des assistantes sociales. Il y a des clients, ils sont contents de passer à nos caisses parce qu'ils nous parlent, on les écoute, on leur répond. Moi, je suis très inquiète. Oui. Et puis, maintenant qu'on ferme à 18h, c'est un peu chaud pour tout le monde. C'est un peu tendu avec les clients. On se soutient comme on peut, ensemble. On essaye de tenir le coup.
Cyrine Garde, on a parlé de la notion de reconnaissance beaucoup pendant le Covid, après le Covid. Qu'en est-il resté, finalement, matériellement et même symboliquement ?
Je pense qu'on est encore dans le questionnement. La crise sanitaire, elle a mis en lumière cette demande, je dirais, de revalorisation à la fois symbolique et matérielle du travail. Mais je pense que le questionnement, il est encore assez largement en suspens. Je dirais qu'il est toujours présent, mais qu'on n'a pas su, pour l'instant, y trouver des réponses satisfaisantes. Alors évidemment, il y a un certain nombre de hausses du SMIC qui sont intervenues dans la période récente, mais qui sont automatiques.
Et dans un contexte d'inflation aussi.
Et tout à fait. Donc on voit émerger, ça je voudrais quand même le dire, un ensemble de mobilisations hein, collectives juste après la crise Covid. Alors la crise Covid, en fait, ça dure 2 ans. Ça se termine en 2022 avec la levée des dernières restrictions. Mais on voit déjà que pendant le premier confinement, il y a des conflits du travail. Il y a le cas très emblématique d'Amazon qui qui finira par fermer hein, ses entrepôts pour des raisons notamment de problèmes de santé et de sécurité au travail avec des chaînes de contamination en masse. Donc il se passe déjà des choses pendant le premier confinement et puis ensuite les salariés commencent à se mobiliser, notamment au titre de cette catégorie d'essentiel qui va être réappropriée en fait hein, par un certain nombre de salariés, par les organisations syndicales, y compris par le politique, je pense à des députés comme Rachel Keke. Mais il y a une conflictualité qui naît précisément de sujets que la crise a mis en lumière, a fait émerger, et notamment ce gros enjeu de la rémunération. Ce matin, je lisais une publication de la DARES qui disait qu'en 2022, il y a eu une très forte augmentation du nombre de journées de grève. Alors, le Covid, ça peut être une raison, mais il y a clairement une demande profonde au sein de la société de revalorisation matérielle et symbolique du travail qui, pour l'instant, n'est pas complètement prise en compte, ni par le gouvernement, ni par les employeurs.
Claude Didry, vous qui connaissez bien également ces questions-là de mobilisation, est-ce qu'on peut dire que finalement la crise a permis aux syndicats de retrouver un nouvel élan de vigueur ?
Bien sûr. Les syndicats, on l'a vu ici et là, ont été des liens, liens par rapport à l'angoisse des salariés, liens dans le cas du télétravail, et liens ensuite dans la reprise du travail. Hein, parce que, je trouve que ça c'est important. Je voulais revenir juste sur les essentiels,
allez-y.
Dire un élément qui me paraissait important, que vous mettez en évidence, Cyrine également, c'est la fierté du travail. Cette fierté, elle apparaît. Alors, dans les hôpitaux, il est clair que c'est les soignants en tirent une fierté. Et donc, dans un monde qui est soumis au pouvoir biomédical, on pourrait dire, les soignants ont trouvé là une occasion de s'affirmer. Et ça a débouché aussi dans la négociation de la prime Ségur. On peut le voir dans beaucoup d'autres métiers. Les pieds sur terre, par exemple, sur les éboueurs, d'Auxerre, sont là aussi pour dire, pendant le Covid, on assumait la fonction à l'extérieur et on était fiers de notre boulot, d'en parler à la maison. J'ai vu ça aussi avec des aides-soignantes dans les EHPAD, fiers de parler de leur travail à la maison. Et je pense que cette fierté, elle se retrouve aujourd'hui dans les enjeux de conflits sociaux, de mobilisation par rapport à ces personnes peu qualifiées. Enfin, ceci dit, les conflits aujourd'hui sont quand même monnaie courante aussi aux États-Unis, hein, avec une ampleur qu'on n'a pas en France, hein, c'est certain. Mais...
Claude Yassénic, vous vouliez réagir ?
Juste une petite remarque. En fait, on a l'habitude de se demander, en sciences sociales, en économie ou en sociologie, si justement cette valorisation, cette fierté, cette valorisation symbolique du travail, pour certains, remplace un peu le salaire. Donc, de toute façon, on fait un métier qu'on aime, c'est pas la peine d'être forcément aussi bien payé, cette idée des différences compensatrices. Et en fait, ce qu'on voit, on a conduit à l'Observatoire du bien-être une enquête auprès des enseignants. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même des limites. C'est-à-dire que, en fait, en deçà d'un certain seuil, ça ne se compense plus, mais au contraire, ça s'ajoute. Et dans cette enquête, on voit les enseignants sont un peu moins satisfaits de leur travail que la population générale de diplômes équivalents ou de leur vie. Mais alors, de leur salaire, sur une échelle de 0 à 10, ils sont à 2,5. Et quand on leur demande « Est-ce que votre métier est valorisé dans la société ?» 2,5. C'est des notes inouïes sur ce genre d'échelle. Et donc ça montre que, en fait, c'est vrai qu'il y a une substituabilité peut-être, voilà, il y a la rémunération symbolique, la rémunération financière, mais quand la rémunération financière tombe en dessous d'un certain seuil, ça donne quand même l'idée que la société valorise pas peu, finalement, peut-être, ce genre d'activité, et ça va conduire à se poser des questions. Donc voilà, c'est juste une remarque un peu... Là encore, un champ de recherche à venir.
Absolument.
Un champ de recherche à venir que nous observerons peut-être ici à Entendez-vous l'écho. En attendant, un grand merci à tous les trois, Claude Yassénic, Cyrine Garde et Claude Didry, d'avoir été avec nous pour parler des bouleversements que l'épidémie de Covid-19 a provoqué dans le monde du travail. Cette émission se poursuit tout de suite avec une autre spécialiste du monde du travail, c'est Dominique Méda.
Pourquoi est-il légitime d'utiliser l'expression « État-providence » ? Nous avons vu la semaine dernière que l'expression « État-providence » semblait avoir été surtout utilisée par les libéraux, inquiets du risque de l'expansion de l'État dans ses fonctions de protection et donc dans une acception péjorative. C'est la raison pour laquelle certains chercheurs préfèrent ne pas utiliser ce terme dans la mesure où il porterait les stigmates de ses origines. Qu'en est-il vraiment ? Certes, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les critiques portées par les libéraux dans le sillage d'Alexis de Tocqueville contre les fonctions que l'État pourrait exercer en prenant en charge la protection contre la misère sont nombreuses. Le sociologue François-Xavier Mérien, qui a exploité les corpus, a retrouvé de nombreuses expressions de ces critiques tout au long de la seconde moitié du XIXe siècle. Ainsi, en 1849, un des rédacteurs d'un journal conservateur écrit-il que les révolutionnaires sont de grands prometteurs qui comptent faire bonne chère au peuple à bon marché, car il faudra peu d'impôts à cet État-providence qui prendra pour lui tous les soucis, toutes les sollicitudes, toutes les prévisions laborieuses et nous préparera à une vie bien arrangée où nous rencontrerons sans avoir besoin de le chercher tout ce qui est nécessaire à notre existence, tout ce qui peut la charmer, l'embellir et où nous n'aurons plus qu'à nous laisser faire. Mais les partisans d'un État social ne sont pas en reste. L'un des tout premiers, sinon le premier, à utiliser l'expression est Lamartine, éminent membre du gouvernement provisoire de la Seconde République, qui, dans son Histoire de la Révolution de 1848, publiée en 1849, écrit en parlant de lui-même et de son action « Je voulais que l'État, providence des forts et des faibles, fournit dans certains cas extrêmes, déterminés par l'administration, du travail d'assistance aux travailleurs sans aucune possibilité de se procurer le pain de leur famille. » Fin de citation. Durant la Révolution de 1848, le terme de providence accolé à l'État n'est pas l'apanage de Lamartine, écrit François-Xavier Mérien. On trouve des expressions similaires sous la plume d'éminents réformateurs de 1848, des socialistes, des républicains radicaux, des républicains modérés, des catholiques sociaux. Certes, les auteurs de la génération de 1848 n'utilisent pas l'expression « État-providence » proprement dite, mais se contentent le plus souvent de juxtaposer dans la même phrase les mots « État » et « Providence ». Pourtant, en 1851, le patron de presse bien connu, Émile de Girardin, utilise l'expression dans un sens très clairement progressiste dans le nouveau journal qu'il lance, « Le bien-être universel ». Dans un article publié le 16 mars, sobrement intitulé « L'État », il pose cette question. Du point de vue du bien-être universel, que doit être l'État? Et il y répond ainsi, l'État doit devenir la providence terrestre de tous. À l'origine, la notion d'État-providence est donc ambiguë, critique dans la bouche des libéraux, désirable dans celle des progressistes. Mais à la fin du XIXe siècle, l'État-providence est dénoncé de tous côtés. Par les républicains, les libéraux et les conservateurs, pour lesquels chacun devrait apprendre à se prendre en charge, au lieu de compter sur l'État, mais aussi par certains leaders ouvriers qui revendiquent l'autonomie du mouvement ouvrier. Ou encore par certains leaders socialistes qui se montrent très critiques vis-à-vis de cet engouement des ouvriers pour l'État-providence. Il faudra paradoxalement attendre la fin du XXe siècle pour que la notion d'État-providence prenne de nouveau un sens positif dans un contexte de crise des politiques keynésiennes et d'attaque virulente des néolibéraux contre les politiques sociales de l'État. Mais en définitive, conclut François-Xavier Mérien, compte tenu de ses origines réelles, il n'y a donc plus aucune raison de contester la légitimité d'une notion qui peut être lavée du soupçon de péché originel.
Merci Dominique pour vous réécouter, c'est sur le site de France Culture, à la page du Pourquoi du Comment, Économie et Sociale, ou en podcast sur l'application Radio France. Merci à Léa Sabourin qui a programmé et préparé cette émission et merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Inès Gender, Léopold Thiévin, Anouk Millot, Tina Young, Diane Devancet et Laurence Jeunepin. Cette émission est à réécouter sur le site de France Culture mais également sur l'application Radio France où vous pouvez la télécharger et vous abonner à l'émission.